Bonjour et bienvenue dans notre podcast, le podcast de FMC. Les réseaux sociaux sont-ils le nouvel intrant agricole? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Avec nous, pour bien comprendre ce qui se joue derrière nos écrans et quelles implications ces réseaux sociaux peuvent avoir sur les méthodes de travail, le gain de productivité et le gain de temps, nous avons réuni autour de la table Audrey Domenac, journaliste et social manager de monviti.com. Bonjour.
Bonjour.
Denis Beauchamp, responsable céréales à l'Union des coopératives de l'Allier et président de France AgriTwittos. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Émilien Guillot-Vignot, responsable communication France chez FMC. Bonjour Émilien.
Bonjour.
Merci à tous d'être là et merci aussi à nos auditeurs qui ont pas mal de questions à poser au sujet des réseaux sociaux. Comme dans tous les secteurs, ils deviennent incontournables, mais on va le voir, dans le cas de l'agriculture, les fonctions sont un petit peu particulières. C'est parti. On va commencer par une question en apparence assez simple. Qu'est-ce qu'on inclut dans les réseaux sociaux et quels sont ceux qui sont les plus utilisés par les agriculteurs, Émilien ?
Bah effectivement, une question simple, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça inclut énormément de choses. On va retrouver des choses comme Facebook, comme YouTube, comme Twitter, mais aussi on peut aller jusqu'à Snapchat, Instagram, LinkedIn, Pinterest, WhatsApp ou même encore des TikTok. Tout ça, aujourd'hui, ça fait partie... globalement, en essayant d'être un peu exhaustif, des réseaux sociaux. Mais si on se focalise plus sur le monde agricole, on va dire qu'aujourd'hui, il y en a trois qui font vraiment un peu le gros. Ça va être Facebook, YouTube et Twitter. On regarde sur les deux, trois dernières années, c'est ceux qui ont eu la plus grosse croissance et qui occupent le plus de volume.
Globalement, ils viennent y chercher quoi, ces agriculteurs, sur les réseaux sociaux? Ça leur apporte quoi exactement, Denis?
Ça leur apporte déjà des échanges, par définition. Agriculteur, c'est un métier où on est souvent seul, et les réseaux sociaux permettent d'échanger aussi bien des pratiques que des impressions ou n'importe quoi, tout ce qui se passe dans leur vie. Et c'est très important aussi pour eux de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à faire la même chose, à avoir les mêmes problématiques. Ça leur permet de sortir de la bulle un petit peu dans laquelle ils sont un peu coincés.
Qu'est-ce que les agriculteurs cherchent comme info quand ils font usage du numérique? C'est vraiment cette question qu'on a envie de se poser. On vient d'évoquer ce point avec vous. Pour approfondir un peu plus, on va écouter la question de Brice Volin. Il est céréalier dans l'Yonne et il a une petite suggestion à vous faire.
Bonjour. Avec des outils numériques, est-ce qu'on serait capable de déterminer comment gérer les avant-pistes régras du pain par zonage?
Une question très technique pour vous, Émilien.
Alors, je vais vous répondre en fait en deux temps. Parce qu'en fait, il y a deux sous-questions dans la question de Brice. La première, c'est l'identification. Aujourd'hui, on le sait, il existe déjà des applications, en fait, des OAD, pour identifier, entre guillemets, les adventices. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est soit ce qu'on appelle des OAD intuitives. Donc c'est un système, en fait, où l'agriculteur ou la personne va prendre en photo, entre guillemets, les adventices. Et avec un système d'algorithme, il y a la capacité d'amener une réponse à l'adventice présente et avec un certain pourcentage d'erreurs. Donc ça, c'est ce qui existe. Après, il y a ce qu'on appelle les OAD participatives. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a chez nous, chez FMC. Donc on a Evalue Flash Flore, où en fait, la personne va prendre plusieurs photos, les envoyer à notre groupe d'experts avec quelques informations complémentaires, genre le pH, le type de sol. Et nous, dans un délai de 3 heures, on va donner la réponse exacte de l'adventice présente. Donc ça, c'est plus pour l'identification. Après, il y a ce qu'on appelle le second niveau. C'est la capacité à l'OAD d'apporter, je dirais, la bonne dose et le bon produit pour aller traiter cette adventice en temps réel. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer là-dedans. Il y a ce qu'on appelle un secteur qui s'appelle le Precision Ag, donc l'agriculture de précision. Donc il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. C'est en voie. Ce qui existe aujourd'hui, en tout cas, et ça se voit, Denis pourrait compléter là-dessus, au niveau de certains pulvérisateurs dans certains pays du monde qui gèrent de très très grandes surfaces, on peut aller faire du traitement en direct. Mais toute la partie analyse, entre guillemets, de l'adventice, des adventices présentes dans la parcelle, se fait en amont. C'est pas en temps réel, au moment du traitement, au moment de la pulvérisation du produit.
Est-ce qu'en fonction des métiers, vignerons, betteraviers, céréaliers, éleveurs, les supports changent, Audrey Domenac? En gros, tout le monde n'utilise pas les mêmes applis, j'imagine.
Alors oui et non. Alors oui, ils sont tous sur Facebook. Tous les agriculteurs sont sur Facebook. Maintenant, les vignerons se différencient un peu de par simplement leur métier, parce qu'ils font beaucoup plus de ventes directes. Donc on les retrouve plus sur Instagram et sur LinkedIn. Et c'est une étude, Vitinote Data Agri, qui nous a indiqué cela.
Je vous ai posé cette question sur les métiers parce que j'ai également constaté en préparant cette interview que les préoccupations ne sont pas les mêmes pour tous, hein, dans tous les secteurs. En témoigne justement cette première question de Mélanie Tarlan, qui est viticultrice dans la vallée de la Marne.
Personnellement, j'aime beaucoup ce que fait la LPO grâce à Instagram avec le comptage des oiseaux. Certains jours, rendez-vous où tout le monde le fait en même temps. Pensez-vous que ce soit inspirant pour faire des comptages d'espèces ?
Audrey ? Alors oui, évidemment que c'est inspirant. Oui, évidemment que les vignerons pourraient aussi imaginer faire la même chose chez eux sur leur vignoble, avec pourquoi pas les personnes qui passent chez eux. Mais je pense aussi qu'il existe des applis, notamment en B2B, qui vont beaucoup plus loin que ça. Et je préfère que Emilien peut-être nous en parle. Je pense qu'il a une appli en tête.
Vous pensez à l'insecte tracker, c'est ça ?
Exactement. Donc chez FMC, au niveau de la gamme des OAD, on a une application qui s'appelle Evalio Insect Tracker, c'est un peu, si vous voulez, le Waze de l'insecte. C'est-à-dire que je suis agriculteur ou technicien ou simplement, entre guillemets, un acteur du monde agricole. Je me promène dans ma parcelle. Et là, j'identifie potentiellement un puceron, un doryphore. Et ben, l'objectif, c'est de faire partager. C'est toujours la même chose, accompagner, partager, transférer l'information. C'est aussi l'objectif des réseaux sociaux, de transférer cette information à tous mes voisins. Donc je la publie, je dis, ben voilà, dans cette parcelle de céréales, j'ai potentiellement une pression en puceron pour que potentiellement les autres agriculteurs de la région le voient. Donc encore une fois, l'utilisation, transfert d'information et que l'échange apporte, entre guillemets, un maximum d'expertise pour tout le monde.
Les bénéfices au sens large pour le monde agricole de ces réseaux sociaux, c'est l'objet de cette deuxième partie. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer le monde d'avant dans tous les domaines. C'est fascinant de se rappeler, mais comment on faisait avant ? Dans ce domaine-là en particulier, est-ce qu'on peut identifier des changements concrets vraiment dans les méthodes de travail des agriculteurs dues à l'arrivée des réseaux sociaux, Emilien ?
Oui, tout à fait. Ça a déjà, dans un premier temps, permis une première étape, c'est, je dirais, d'apporter du contenu. Énormément de contenu. Ils ont pu transférer, entre guillemets, toute leur expertise beaucoup plus facilement. Denis le disait un petit peu en introduction, malheureusement, des fois, les agriculteurs, ils sont un peu en vase clos. Ils sont au niveau de leur exploitation ou au mieux au niveau de leur commune. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, ils ont un savoir-faire, ils ont vraiment une notion de contenu qui est extraordinaire. Donc, les réseaux sociaux ont permis de diffuser beaucoup plus largement ça. Et nous, je le vois, nous, par exemple, rien que par rapport à FMC, ça nous a permis de rentrer beaucoup plus facilement en contact avec, je dirais, les personnes qui ont aussi envie, parce que c'est l'objectif. Certains ont envie, d'autres moins. Ça, c'est au caractère de chacun. Et ça a permis vraiment d'avoir un flux d'informations, d'être beaucoup plus exposé, donc de beaucoup plus communiquer sur les métiers et aussi de rencontrer beaucoup plus de personnes. La mise en relation est beaucoup plus pratique, donc du coup, on a cette notion de transfert d'informations, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi un point clé au niveau des réseaux sociaux, c'est ce transfert d'informations. Et on rentre toujours dans cette dynamique positive, transfert d'informations pour faire grandir l'agriculture française.
Transfert d'informations, lien, on peut dire que les réseaux sociaux ont apporté de la valeur ajoutée au travail de l'agriculteur, finalement, Denis. C'est très positif pour eux.
Alors, c'est très positif, il y a de tout, hein, comme à chaque fois. Ça permet à tout le monde de montrer ce qu'il fait et de montrer surtout l'évolution de ses pratiques. L'agriculture, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, qui ne s'arrête pas. Et on dit souvent qu'il faut bien faire son travail, c'est la base, mais il faut aussi bien le montrer. Parce que si vous ne montrez pas ce que vous faites dans votre travail, les autres vont en parler à votre place, ils ne vont pas forcément parler en bien, ils vont en parler sans savoir. Donc c'est dans ce sens-là où on peut dire que ça apporte de la valeur ajoutée, parce que ça montre toute évolution, ça montre où on était avant, où on est maintenant, où on pense être dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est ça qui est formidable, c'est d'expliquer à tout le monde que c'est pas du tout un modèle agricole figé qui attend qu'on le bouscule, et c'est en fait quelque chose qui bouge très vite. On travaille avec la nature, avec le climat, donc forcément c'est toujours une remise en cause perpétuelle.
Mais il n'y a pas que du positif, hein. J'ai bien vu que vous alliez insister là-dessus dans votre réponse, et c'est un peu le sens de la première question d'un autre auditeur, Olivier Gérard, qui est exploitant dans la Marne.
Comment dans mon métier d'agriculteur, ou que ce soit même à titre personnel, comment je peux faire face à une polémique sur les réseaux sociaux ?
Denis ?
Alors, c'est toute la difficulté des réseaux sociaux, c'est que c'est une caisse de résonance et parfois on a l'impression qu'il peut y avoir un peu un effet meute contre une pratique ou contre quelqu'un. Nous, au sein de l'association France AgriTwittos, on a écrit un petit guide justement qui s'appelle « Comment communiquer efficacement quand on est agriculteur et qu'on manque de temps ». Alors, c'est un petit guide de 30 pages, hein, c'est pas grand-chose, mais ça reprend plein de petits points fondamentaux. Comme par exemple prendre du recul, quand on a une émission sur l'agriculture à la télévision, on a l'impression d'avoir 60 millions d'agronomes qui nous expliquent notre métier, mais quand c'est la Coupe du Monde, c'est pareil, sauf que c'est les spécialistes de football. Donc il faut prendre du recul, c'est pas, tout le monde ne vous en veut pas. Et on parle d'agribashing parfois, il y a aussi du prof-bashing, il faut aussi un bashing, journaliste bashing, enfin tout le monde. Donc il faut prendre du recul par rapport à ça. Il faut aussi surtout éviter de s'énerver. Il faut vraiment, la fonction brouillon sur Twitter me sauve la vie tous les jours, parce que sinon on passerait notre temps à insulter les gens. Alors, insulter les gens, ça peut soulager, hein, mais ça ne fait pas avancer le débat. Donc il faut se poser et répondre factuellement sur les questions qui nous sont posées. Si on est challengé sur l'environnement, sur la production, eh bien on répond sur l'environnement, sur la production, on a toutes les cartes en main pour répondre. Mais il faut pour ça vraiment prendre du recul, essayer de comprendre aussi pourquoi les gens sont en colère. Quelqu'un qui se met en colère contre vous, il y a une raison d'être en colère. Essayez de dénouer un petit peu ça. Qu'est-ce qui fait qu'il pense cela? Est-ce qu'il était mal informé? Est-ce qu'il a quelque chose? C'est ça qu'il faut faire un petit peu de psychologie aussi.
C'était un point important et donc ce guide, je pense qu'il sera intéressant à lire effectivement pour tous ceux qui sont concernés. Olivier Gérard qui poursuit sur une autre question. Je ne dirais pas qu'il fâche, mais je dirais une question importante quant à l'usage que l'on peut faire des réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, ça peut vite devenir chronophage. Comment, d'après vous, je peux gérer le temps passé ou à y consacrer ?
C'est une question qui met bien en avant la nécessité de porter des messages efficaces. En gros, ils n'ont clairement pas que ça à faire que de passer du temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous leur suggérez, Émilien ?
Déjà, la première étape, c'est de être ou se faire accompagner. Des fois, il ne faut pas hésiter. En fait, quand on commence à rentrer dans une démarche d'avoir... ce que je pourrais dire, un compte professionnel agriculteur sur Twitter, je prends l'exemple de Twitter, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rentrer du coup dans une démarche pro. Et France Agricultos, par exemple, est un très bon support, même si, entre guillemets, les petits guides ne font que 30 pages, ils donnent déjà, entre guillemets, un minimum de base pour se dire, bah voilà, ça, faut y aller. Le brouillon, effectivement, comme le dit Denis, des fois sauve des vies, mais aussi le fait d'appréhender avec les choses avec un peu de méthodologie. Et donc, la formation, l'accompagnement, nous, c'est quelque chose qu'on a, je vais être franc avec vous, qu'on a fait quand on a créé, entre guillemets, notre stratégie sur Twitter au niveau des FMC. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on a 17 e-ambassadeurs qui ont un compte professionnel Twitter sur FMC. Et c'est Audrey, donc, qui est présente aujourd'hui, qui nous a accompagnés au début pour être carré, pour savoir aborder les choses avec professionnalisme. Et il ne faut pas non plus hésiter de temps en temps à savoir couper. Couper. Quand des fois, effectivement, la personne face à vous est beaucoup trop agressive. Je vous ai vrai qu'au final, ça arrive rarement. On parle volontairement, oui. On parle souvent de ces cas-là, mais c'est de très loin pas du tout la généralité. Au contraire, c'est souvent des discussions intéressantes, pédagogiques, avec beaucoup d'envie de comprendre, donc, même sur des fois sur des sujets très complexes. Et donc ça, c'est pour l'aspect, je dirais, quand on a quelqu'un d'un peu dur en face. Et à l'inverse, il ne faut pas hésiter à couper aussi au niveau temps. On n'est jamais aussi bien sur les réseaux quand on n'y est pas. Donc il faut savoir faire l'alternance entre les deux. J'y suis bien quand j'ai pris le temps de ne pas y être. Donc moi, par exemple, je vais être franc avec vous, il y a des périodes de l'année où je coupe volontairement, 2-3 semaines, où j'y vais pas du tout. Parce que du coup, quand je reviens, j'ai l'envie. C'est un peu comme les hobbies, c'est comme les passions. Pour revenir bien en forme, il ne faut pas hésiter de temps en temps à couper pour être encore plus motivé.
Et puis, ce qui serait intéressant, justement, pour ne pas leur faire perdre de temps, cette stratégie dont vous parlez, ce serait de nous donner des exemples concrets, 2 ou 3 applis vraiment utiles, nous dire comment elles fonctionnent. Est-ce que vous en avez, Denis ?
Alors, ce n'est pas au niveau agricole forcément des applications, plus vraiment des outils d'aide à la décision qui sont très connus, hein, oui. Qui sont anciennement Farmstar, Smag, Méparcelles. Donc, ce sont des outils qui aident vraiment concrètement dans le travail, dans la traçabilité des pratiques. Donc, ça, ce sont des choses qui sont très répandues. Et puis, niveau réseau social, je veux dire d'aller sur Twitter, évidemment.
Forcément, Audrey.
Moi, personnellement, j'utilise une plateforme qui s'appelle Buffer. BU2FER, qui est vraiment très utile pour arriver à gagner du temps quand on veut être sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, parce qu'on peut programmer ou pas d'ailleurs. Et c'est vraiment très pratique et facile à utiliser.
Émilien ?
Alors nous, je vais rester pragmatique, hein, désolé, je vais rester dans la gamme d'OAD et FMC. Il y a une OAD auquel on n'a pas parlé, qui est Evalio Agro System, qui est une application en fait, qui aide à positionner l'utilisation d'un de nos produits en fonction du pic de vol des foreurs du maïs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment d'un pragmatisme sans nom. En fait, il y a tout un réseau de piégeages, entre guillemets, en France qui permettent de savoir à quel moment le pic du vol de l'insecte est le plus important pour venir y positionner son traitement. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement et la pédagogie autour des produits phytosanitaires.
On arrive déjà à la troisième partie, c'est l'occasion de parler un peu des voies de développement. Il faut dire que ces réseaux sociaux, c'est l'occasion aussi de voir les agriculteurs autrement. Je pense à Mélanie Tarlan qu'on a eue en ligne, qui est vigneronne, elle fait du champagne, elle est très active sur ses réseaux sociaux. Et sa vidéo, par exemple, sur comment sabrer le champagne avec un iPad est tout simplement géniale. C'est un peu l'occasion de montrer d'autres facettes du métier, une certaine créativité, de l'humour. Bref, c'est l'occasion de communiquer efficacement et autrement, Audrey, quand même.
Ah, tout à fait. Alors, Mélanie et Benoît Tarlan sont des exemples à suivre sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'apprécie plus particulièrement au-delà de leur humour, c'est surtout la poésie qu'ils peuvent dégager sur ces réseaux qui, à mon sens, représentent bien leurs valeurs ancrées dans le terroir, mais aussi leur champagne.
À ce sujet, au sujet de la créativité, Denis, vous aviez un mot à rajouter ?
Oui, c'est important. Quand on est agriculteur, on fait un métier de passion, de vocation presque. Et donc, quand on en parle avec ses tripes et c'est important. Et on parle souvent de communication positive. Moi, je préfère la communication sincère. Et c'est important de montrer qu'on est agriculteur, certes, mais on a aussi une famille, des amis, qu'on peut faire des blagues. Et donc, il ne faut pas hésiter à montrer des choses, à faire passer des messages avec un peu d'humour. Quand on fait appel à l'émotion, ça marche toujours plus. Et on est tous des êtres humains, il ne faut pas hésiter à le montrer aussi.
Alors, puisqu'on parlait de Mélanie Tarlan, elle a justement une deuxième question pour vous.
Je vois que vous êtes sur Instagram. Est-ce que vous pensez que ça peut être un lieu boutique, comme ça se fait beaucoup maintenant, pour vendre vos produits ou pour vendre des goodies à votre effigie, par exemple ?
Audrey ?
Oui, bien sûr. Tout comme Pinterest, Instagram est aussi un lieu de vente. L'e-commerce s'y développe de plus en plus. C'est pas toujours heureux, mais souvent ça marche bien. Il y a même des blogueuses dans la mode qui, par exemple, au détour, l'air de rien, d'une dégustation de vin, on voit au milieu, au centre de la photo, un verre de vin, et autour, il y a le sac à main, le jean, la veste, etc., avec à chaque fois des liens pour acheter leurs vêtements.
Donc les réseaux sociaux deviennent des sites de e-commerce de plus en plus, c'est ça que vous nous dites finalement ?
Tout à fait, oui.
Alors, notre vigneronne a décidément de bonnes idées, on va plutôt écouter sa dernière question.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'organiser des Insta Meet et de rencontrer finalement ceux qui vous likent sur Instagram ?
Je crois que ça vous parle de...
Oui, tout à fait. C'est dans l'ADN de France Agri Twitto. C'est même comme ça qu'on a lancé l'association. Nous, on fait des tweets apéro. On lance une invitation à venir prendre l'apéro par Twitter. Et on fait ça tous les ans au Salon d'Agriculture cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, on l'avait fait. On a rempli le stand qu'on avait bien voulu nous prêter. Donc, on a beaucoup organisé ça. Et maintenant, on le fait sur Zoom et on a hâte de pouvoir le refaire en vrai.
Pour terminer, je voulais revenir sur la notion de progrès, de mouvement. C'est un domaine en perpétuelle évolution. Il faut suivre et puis il faut aussi toujours proposer des nouveautés, de nouvelles fonctions, des nouveaux outils. Les possibilités sont infinies, non, Émilien ?
Oui, effectivement, c'est, on va dire, les réseaux sociaux où tout ce domaine d'activité-là phosphore énormément. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Et donc, pour citer un exemple... À cause ou grâce au Covid, j'aime pas trop trouver la phrase qui permet le mieux d'avoir cette réflexion-là. Nous, chez FMC, entre guillemets, on s'est posé une question, par exemple, sur comment faire visiter, entre guillemets, nos essais pendant cette période-là. Et aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle la réalité virtuelle, c'est-à-dire la capacité d'aller capter un bel essai, un beau programme, une belle mise en situation en conditions réelles, et du coup, la transférer aux personnes qui n'ont pas le temps d'aller visiter cet essai et qui n'ont pas l'opportunité de démultiplier le transfert de l'information. Voilà. C'est une des voies de développement que les réseaux sociaux, que toutes ces nouvelles technologies peuvent apporter, et voilà, on espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus.
Audrey, on pourrait en faire encore plus, d'après vous ?
Je pense que les réseaux sociaux s'influencent les uns les autres. Quand on prend aujourd'hui les vidéos TikTok et qu'on voit à quel point ça va se développer sur les autres aussi, ça va être une des prochaines tendances en 2021. Je pense que oui, il faut être créatif, il faut être toujours à l'affût, de se dire « tiens, allez, c'est les vendanges, mais tous mes voisins, on en parle tous de la même façon. Comment est-ce que moi, je peux me démarquer ?» La forme est de plus en plus importante, même si le fond reste évidemment... important à prendre en compte, mais je sais pas, faut pas hésiter à tester. Ces réseaux sociaux, quand ils lancent quelque chose de nouveau, ça n'est pas pour rien. Par exemple, quand Twitter lance des flits, ces espèces de stories en mode Instagram, ça n'est pas pour rien. Donc il faut chercher pourquoi et se l'approprier.
Vous êtes d'accord, Denis ?
Ouais, tout à fait. J'ajouterais même que l'évolution a été spectaculaire en quelques années. On a eu des stats qui sont sorties qui nous montraient que la communauté agricole est celle qui avait le plus grandi sur Twitter en quelques années. Et si vous regardez, il y a 4 ou 5 ans, dès que quelque chose de négatif sortait sur l'agriculture, on n'avait pas la parole. Et aujourd'hui, il y a 100, 200, 300 000 agriculteurs qui répondent et qui expliquent, alors à chacun avec ses mots, que la personne dit n'importe quoi, se trompe, etc. Donc on arrive à faire bouger les choses dans la vraie vie et vraiment concrètement. Et c'est ça qui est formidable.
Un sujet fascinant aujourd'hui, un champ des possibles immense et du lien toujours entre les différents acteurs. C'est vraiment l'importance du lien induit par les réseaux sociaux que nous retiendrons. Ce lien que nous contribuons aussi à créer via ce podcast. Un podcast réalisé grâce à votre participation, Audrey Domenac, notamment. Merci.
Merci.
Je rappelle que vous êtes journaliste et social manager de monviti.com. Denis Beauchamp, merci à vous.
Merci.
Vous êtes responsable céréales à l'Union des coopératives de l'Allier et président de France Agri Twittos. Et puis, merci à vous, Émilien Guillaud-Vigneault.
Merci.
Vous êtes responsable communication France chez FMC. Nos remerciements vont également, bien entendu, à nos auditeurs qui, une fois de plus, se sont livrés avec bonheur au jeu des questions. Et enfin, c'est vous qui nous écoutez que nous remercions. Vos likes, vos partages, vos commentaires et votre soutien sont toujours aussi précieux. N'hésitez surtout pas à parler de ce podcast autour de vous. Nous avons besoin de vous pour le faire vivre. À bientôt.